le préjugé répandu selon lequel l'amour est aussi fréquent que les histoires sentimentales vient sans doute de ce que la poésie a fait notre éducation. Mais les poètes nous trompent. Ils sont les seuls pour qui l'amour soit une expérience non seulement cruciale, mais même indispensable, ce qui les autorise à la croire universelle. Qui, aujourd'hui, fait notre éducation ? Et s'il y a encore des plumes pour propager le préjugé qui confond l'amour et les histoires sentimentales, qui tient ces plumes ? Ni les poètes, ni même les psychanalystes, qui un temps avaient pris leur relève. Aujourd'hui, ce sont les sociologues qui nous parlent de l'amour. Ils se penchent sur les aventures et les mésaventures du couple et de la famille, comme ils s'intéressent à la prostitution et au monde du porno. Leur livre s'intitule par exemple « La transformation de l'intimité, sexualité, amour et érotisme dans les sociétés modernes » ou « L'amour liquide » ou « Liberté, égalité, sexualité ». Tout un programme.
Des sociologues parlent. Un sociologue du risque.
La diminution du poids des traditions entraîne une augmentation des promesses de la vie du couple. Tout ce qui disparaît, on se met à le rechercher en l'autre. L'idéalisation de l'amour est un reflet de plus de la voie qu'emprunte la modernité. La surenchère est l'envers des pertes que la modernité a apportées. Pas de Dieu, pas de prêtre, pas de classe, pas de voisin, alors au moins toi. Et la grandeur de ce toi est proportionnelle au vide qui règne partout ailleurs.
Un sociologue du couple.
Pour moi, l'entrée forte dans la conjugalité, c'est le partage du lave-linge. Mais avant le lave-linge, il y a le lit. Il est fondateur parce que c'est le premier objet partagé de la vie à deux, à la fois intime et ordinaire. On était dans une histoire de sexe ou d'amour et on entre dans la vie à deux. Maintenant, il y a très peu de décisions positives qui mènent vers le couple. Les décisions sont plutôt des décisions négatives. Si on ne dit pas stop, ça se met en place tout seul par une familiarisation commune des objets.
Un sociologue de l'intime.
J'appelle relation pure, une situation dans laquelle une relation sociale est entamée pour elle-même. Ou plus précisément, pour ce qu'un individu peut espérer tirer de son association durable avec un autre. Cette alliance ne se perpétuant que dans la mesure où les deux partenaires jugent qu'elle donne suffisamment satisfaction à chacun pour que le désir de la poursuivre soit mutuel.
Tout un contractualisme sentimental. Si l'on ne se fait pas virer, le contrat est reconduit tacitement. Et s'il se prolonge suffisamment, il peut même donner lieu, par projet mutuellement consenti, à la composition d'une famille.
Le couple, la famille, toujours les mêmes vieilles formes. Elles ont beau se recomposer, elles n'ont pas éclaté. C'est étrange. On nous a tellement dit que les mœurs se sont libérées.
En réalité, s'il n'avait pas pris l'allure d'une errance de partenaire en partenaire, le couple se serait sans doute effondré après 68. Aujourd'hui, il persiste sous la forme d'une étrange conjonction de sentimentalisme et de sexualité plastique, comme disent les sociologues. Le couple ne serait pas un lieu de reproduction des structures sociales si puissant s'il n'était pas aussi porteur d'une promesse. Il est une poche de résistance du désir d'absolu, mais déconnecté en général de sa puissance d'émeute. Refuge contre la solitude et l'individualisation, mais lui-même individualisé, lui-même isolé, comment peut-il tourner à autre chose qu'à un narcissisme à deux ?
Ce qu'on a appelé révolution sexuelle aurait sans doute pu prendre d'autres directions, mais aujourd'hui, elle fait bon ménage avec le libéralisme existentiel, qui aime que tout soit garanti par contrat, et l'amour du contrat règne partout.
Prenons par exemple l'échangisme.
L'avantage de l'échangisme sur le simple adultère hors mariage est particulièrement flagrant. Aucun des échangistes n'est trahi, les intérêts des personnes ne sont pas menacés et, selon Habermas et son modèle idéal de communication non déformée, chacun participe. Le ménage à 4, 6, 8 est affranchi de toutes les plaies et déficiences qui, on le sait, constituent le poison du ménage à 3.
Bon, ils se marrent bien les sociologues. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bon sang, pour en arriver là ?
On a d'abord du mal à se libérer de ces chaînes. Et finalement, il faut encore se libérer de cette émancipation. Chacun d'entre nous a travaillé à sa manière, par la maladie des chaînes, même après qu'il a brisé celle-ci.